Les titres du journal.
Le Palladium de Champéry sera désormais géré par sa propre société d'exploitation. Explication dans ce journal avec le président champérolin Jacques Berrat. Abbé, il est possible de marcher sur les traces d'Alexandre Dumas, de Chateaubriand et de nombreuses personnalités qui ont profité ou façonné le patrimoine salifère de la région. L'association Grano Salis raconte cette histoire. Reportage. Les Jeux Olympiques de Tokyo sont désormais terminés. Ils ont été une réussite pour les athlètes suisses. Réaction à Berne où les élus ont félicité la délégation helvétique. Et dans notre page sport, toujours, les organisateurs des JO peuvent avoir le sourire. Malgré la crise sanitaire, l'événement a bien pu se tenir. Écoutez, course à pied, Maude Matisse a régné pour la troisième fois consécutive sur Sierzinal ce week-end.
Et côté météo, on garde le sourire avec du soleil prévu pour cet après-midi et demain selon Météo Suisse. Le point complet après le journal. Le journal de la mi-journée avec Joël Espy. Bonjour Joël.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Le Palladium de Champéry dispose de sa propre société d'exploitation. Elle se nomme Société d'exploitation des infrastructures touristiques des Dents du Midi et voudrait à terme se charger de la gestion de l'offre de la commune. Les autorités sont parties de l'ancienne société Champéry Tourisme SA, comme l'explique le président champérolin Jacques Berrat.
Champéry Tourisme SA n'existe plus comme société. Elle a été transformée. On a changé le nom et le but social. En fait, Champéry Tourisme SA, c'était la société d'exploitation du tourisme à Champéry avant de créer Région Dents du Midi. On l'a gardée comme société dormante parce que complètement la liquider, c'était un peu utopique. Et on s'est dit si jamais on avait besoin pour autre chose. Aujourd'hui, on a changé les buts de cette société et puis on a changé le nom. Et le but, c'est de gérer les infrastructures touristiques. Au départ, c'est principalement de gérer le Palladium, le Centre National de Sport de Glace, dans la partie exploitation. Pas les bâtiments, mais la partie exploitation propre. Et de gérer aussi l'équipe qui s'occupe des chemins VTT sur la commune de Champéry.
Jacques Berrat avec Valérie Blom. Les chemins pédestres et la Via Ferrata pourraient éventuellement intégrer cette nouvelle société. Un alpiniste de 58 ans est décédé hier sur les hauteurs de Sasfe. L'homme était accompagné de deux autres personnes et effectuait la descente depuis la Michabelhütte en direction de la station. Dans la région du Distelhorn, pour des raisons encore inconnues, il a fait une chute de 100 mètres. Malgré leur rapide intervention, les secours n'ont pu que constater le décès de l'alpiniste. Le ministère public a ouvert une enquête.
Le sel a marqué l'histoire du Chablais vaudois.
Une association, Cum Grano Salis, se charge de mettre en valeur le patrimoine historique qui lui est lié. Et cette année, elle organise une série d'événements pour célébrer les 222 ans du Sentier du Sel. Samedi, une balade sur les pas des personnages historiques de passage à B permettait de découvrir le passé de la région. Valérie Blom s'y est glissée. Reportage.
On ne pouvait pas être mieux placé. Tournez-vous. Et vous vous trouvez face au logis de l'ours. Nous sommes en 1750, on est remonté dans le temps.
Le Somoduc, une ancienne canalisation longue de 7,5 km, constituée de 2233 troncs de mélèze percés et emboîtés les uns dans les autres, permettait de véhiculer l'eau salée captée au cœur de la mine de sel de Panay-sur-Olon jusqu'à l'ancienne saline des Dévons-sur-Baie. Ce somoduc aura eu 222 ans en 2020. Cum Grano Salis souhaitait célébrer cet anniversaire de cette installation à l'origine du Sentier du Sel l'an dernier déjà, mais l'entier des rendez-vous a été reporté à cause de la pandémie. Et ce samedi, quelques courageux ont bravé l'orage pour écouter les nombreuses anecdotes de la présidente de l'association, Sandrina Sirafissi, comme celle sur un certain Alexandre Dumas.
Il arrive à B, il a 32 ans. Il n'a pas encore écrit les trois mousquetaires, mais il est déjà célèbre, il a des maîtresses, et il se fait servir une truite tellement bonne qu'il décide aussitôt d'aller en pêcher une dans la rançon, car le garçon d'hôtel lui a raconté qu'on pêchait ces truites d'une façon fort curieuse. On les pêche, nous raconte Alexandre Dumas dans ses Impressions de Suisse, avec une lanterne submersible et une serpe. Alexandre Dumas a les pieds dans l'eau, c'est la nuit. Maurice, le garçon d'hôtel de l'auberge de l'Union, a une lanterne submersible. Donc le principe et l'idée, c'est qu'on plonge cette lanterne dans l'eau et les truites attirées par la lumière viennent apporter le serpe. Et là, ça devient encore plus corsé. Il s'agit d'un adroit coup de serpe, non pas de la couper, mais de la projeter sur la rive. Alexandre Dumas prend la serpe et essaye d'attraper sa truite. Et malheureusement, il la coupe en deux. Et Maurice dit aussitôt, c'est une truite déshonorée. Alexandre Dumas rentre à l'auberge de Lyon. Et malgré un bon rhume lié à son exploit, si l'on peut dire, s'en va le lendemain visiter les mines.
Certains amis ou membres de l'association participaient à la visite, mais pour Pierre, il s'agissait de la première fois.
Je suis né à B, j'ai grandi à B, puis après j'ai passé ma vie à l'étranger, mais je reviens. Et puis c'est vrai que c'est la première fois que j'ai l'occasion là de découvrir un peu cette partie de l'histoire de B, qui est méconnue, même pour les Bellerins. Donc je trouve que c'est très, très profitable pour moi en tout cas, puis j'aimerais bien que ça soit profitable pour l'ensemble de la population de la région, là, parce que c'est assez unique comme histoire.
Des histoires et des anecdotes racontées par l'ancienne conservatrice du musée historique du Chablais, Sandrina Sirafici, qui semble connaître par cœur le chemin du sel dans la région. Son association cherche justement à mettre en valeur ce patrimoine par des événements ou des publications comme celle en 2019 du livre « Le petit peuple des travailleurs du sel ».
Et en 1753, il annonce fièrement par voie de presse qu'il est en mesure de procurer à sa clientèle des cures d'eau qui viennent pas encore de B, mais de Courmayeur. Je vous ai dit qu'il était entreprenant, ce Pierre Gédéon Moll. Il fait venir à dos de mulet, dans des bouteilles et des caisses qu'il a fait faire exprès, et il les propose aux clients.
Les amateurs de l'histoire du sel peuvent découvrir le site historique des Dévans les 14 et août et 18 septembre ou prendre part à la fameuse histoire de Bé-les-Bains en conférence. Ce sera le 21 septembre. Entre autres, tous les détails sur cumgranosalis.ch. C'était un reportage de Valérie Blum. Le taux de chômage dans le canton de Vaud diminue pour le sixième mois consécutif et s'établit à 3,8% à la fin du mois de juillet. Ce taux a reculé de 0,8 points en une année puisqu'il s'élevait encore à 4,6% en juillet 2020. Il faut noter que si Vaud pratique comme la majorité des cantons, son taux de chômage serait réduit de 0,4 points et atteindrait 3,4%. En effet, le canton de Vaud est l'un des seuls à recenser les personnes en chômage en fin de droit.
L'été n'est pas synonyme de vacances pour tout le monde.
En haut des montagnes vaudoises et valaisannes, ils sont nombreux à s'activer dans les alpages. Traire les vaches et les chèvres, fabriquer du fromage à raclette et autres tomes, ou encore accueillir les touristes. Les tâches sont diverses et variées, mais surtout nombreuses. Léa Journeau est allée visiter l'un de ces alpages, au haut d'Aubignon.
Comme vous avez là devant la vue, il y a la cime de l'Est. On voit le Salentin, le Mont Blanc en arrière-plan. Et si on monte un peu plus haut sur l'Alpage, on a même un panoramique sur le lac Léman et puis le côté Alpage de Fuy.
Avez-vous deviné où nous sommes ? On se trouve au-dessus de Collonges, dans le bout du Chablais valaisan, juste un tout petit peu avant Martigny. À 1600 mètres se trouve l'Alpage de l'eau d'Arbignon. Je vais pas vous mentir, la montée, qu'elle soit en voiture ou à pied, est quand même assez rude, mais elle en vaut la peine. Une fois arrivé, le panorama est beau. Très beau, même. Comme l'a décrit Jean Réfilier, le responsable de l'alpage, la cime de l'Est, le Salentin, bref, tout ceci, juste en face de vous. Ici, on y trouve des chèvres et des cochons, mais pas des vaches. Normal, elles pèsent 400 mètres plus bas dans une autre partie de l'alpage. Mais ça n'empêche pas Alexis, le fromager, de transformer le lait de cette trentaine de vaches en raclette ou en tomes. Elles sont entreposées dans une cave juste à côté. Allez, vous me suivez ?
Voilà. Ici, c'est les fromages du premier jour d'affinage jusqu'à 3 semaines. Ils sont tout frais.
Ils ont été faits quand ?
Les derniers en date. Bah, en fait, ceux qui sont dans la saumure sont d'hier.
Donc eux, ils sont pas encore prêts à être démoulés, à être mis là ?
En fait, on les trempe dans le bain de sel. Le bain de sel a plusieurs objectifs, notamment de créer la croûte du fromage,
ouais.
De donner du goût au fromage, de retirer une partie du sérum qu'il y a dans le fromage.
Ah,
donc
ouais.
Voilà,
ça okay.
Pour ça. Et puis ça a un côté antiseptique aussi. Donc les fromages d'Amontière sont ici en train d'égoutter. Je les ai sortis de la saumure. Ensuite, il y a 3 jours là-bas. Il y a 4 jours, 5.
Ensuite, on monte, c'est ça ?
Tout à fait. Mais en fait, le plus vieux est ici. Il a 3 semaines.
Okay.
Mais ensuite, ceux du 10 juin, j'ai commencé à transformer le 10 juin, sont dans un fort à 500 mètres d'ici.
Dans un fort ?
Ouais, dans un ancien fort qu'on a transformé en cave.
Ok, d'accord, donc il y a une deuxième cave.
Parce qu'on n'a pas assez grand.
Pourtant, quand on y est, ça paraît grand, il y a quand même pas mal de fromage. Hein. Bref, allez, on sort de la cave, direction l'étage de la maison principale. Pourquoi ? Bah, on va visiter les dortoirs. Parce que oui, ici, on peut aussi y dormir. Vu que l'alpage est situé sur le tour des Muvrans, de nombreux randonneurs viennent se reposer, reprendre des forces, ou tout simplement apprécier le calme de l'endroit. Bon allez, on monte, on enlève les chaussures, on met les pantoufles, si vous en avez bien sûr, sinon ce sera en chaussettes, et on y va !
Du coup, il y a deux dortoirs et deux chambres.
Deux dortoirs et deux chambres, ouais. En principe, là, on employe pour les clients, puis là, c'est pour nous, mais l'année passée, avec les deux Covid, donc on a dû ouvrir une chambre pour laisser pas les groupes.
Et du coup, il y a combien de possibilités ?
Alors, on met 16 lits.
Ici ?
16, ouais. Il y en a 3, ici, il y en a 3, 5, 8, 10, 4 là-bas. 14 et 2 là, ou bien on peut compléter avec 2 lits par terre pour faire 16 si vraiment on est en pleine capacité, qu'allez-vous ?
Ça fait combien de temps que ça a été construit tout ça ?
Alors 2003, sauf erreur, chalet.
Et là, il y a quoi ?
Alors là, c'est un annexe. C'est un annexe remise. Bon. On a notre indépendance pour nous, on a nos chambres.
En bas, les sanitaires, toilettes, douche avec eau chaude, ce qui permet du réconfort après une longue randonnée. Le soir, une possibilité de demi-pension avec produits du terroir. Et le matin, petit déjeuner avec produits de la ferme. Bref, Jean Réfilier aime son métier et aime partager. Et pour lui, le plus beau des compliments, c'est quand ses convives repartent en le remerciant de l'accueil.
L'autre but, c'est que les gens ils soient bien accueillis, qu'ils soient contents d'être venus à l'alpage et puis d'avoir pu partager un moment avec notre vie tous les jours et puis en ressortir émerveillé.
Et le reportage de Léa Journeau, également émerveillé par cet alpage de l'eau d'Arbignon. Vous pourrez trouver toutes les informations si vous voulez vous rendre sur le site sur gitealpageauarbignon.ch. Dans le pays, des milliers d'enfants ont repris ou vont reprendre le chemin de l'école. Le Touring Club Suisse, le TCS, mène une campagne de sensibilisation auprès des usagers de la route afin d'éviter des drames. Entre 1992 et 2020, 18 156 accidents ont eu lieu sur le chemin de l'école, dont 15 940 avec des dommages corporels, rappelle aujourd'hui le TCS dans un communiqué. Malgré une baisse continue, 451 accidents ont encore été recensés l'an dernier. C'est toutefois 42% de moins par rapport à 1992.
De retour aux affaires ce matin, la Berne politique ne cache pas sa fierté face aux exploits suisses aux JO de Tokyo.
La ministre des Sports, Viola Amert, a adressé hier une lettre ouverte disant son émotion face aux incroyables performances des athlètes suisses. C'est sa formule. Elle se félicite du soutien politique au sport, notamment au travers de la promotion du sport d'élite dans l'armée. 7 des 13 médailles ont en effet été remportées par des soldats et des soldats sous contrat avec l'armée. Beaucoup de fierté également chez les parlementaires férus de sport, comme la conseillère nationale verte bernoise Aline Trédé, très engagée pour le vélo.
Oui, j'étais fière comme politicienne, mais aussi comme Suisse. Parce que moi, j'ai vraiment lutté pour plus de femmes aussi dans les organisations des sports. Et maintenant, ça pousse pour cette idée et pour vraiment forcer un peu aussi où va l'argent pour le sport.
Est-ce qu'on peut dire que la politique suisse, elle fait tout juste en faveur du sport?
Je pense qu'on a toujours le potentiel pour une optimisation. Par exemple, les organisations, là, on a seulement les hommes. Mais maintenant, on voit que pour les médailles, c'était clair que les femmes sont égales.
7 des 13 médaillés sont des soldats, des soldates. Est-ce qu'il faut passer par l'armée pour gagner une médaille olympique?
L'armée, au moment en Suisse, c'est vraiment une base qui marche, oui. Moi, je ne suis pas vraiment favorable pour l'armée, mais si ça, c'est le chemin au moment, je pense que c'est vraiment aussi, Viola Amert a dit, ok, là, je peux faire quelque chose, alors elle a fait. Mais moi, je trouve aussi qu'on doit regarder avec l'éducation, avec les écoles, qu'on peut avoir un peu un système qui est aussi plus milice.
Des propos recueillis par notre correspondant à Berne, Serge Jubin.
Les syndicats d'enseignants se sont exprimés ce matin.
Les deux organisations fêtières nationales demandent aux autorités de placer en priorité la protection de la santé de toutes les personnes travaillant dans les écoles pour la prochaine année scolaire. Elles préconisent différentes mesures à cette fin. Ainsi, il ne suffit pas d'ouvrir les fenêtres dans les classes, a estimé aujourd'hui le syndicat des enseignants romands et son homologue alémanique, le LCH. Pour améliorer durablement la qualité de l'air, toutes les salles doivent être équipées d'appareils de mesure du CO2 avant la fin de l'année. La crise du Covid-19 a également stressé et fatigué les enseignants. La protection de la santé passe donc aussi par l'attention portée à leur santé psychique, considèrent les syndicats. Ceci doit également contribuer à augmenter l'attractivité de la profession. Le LHC et le SER maintiennent aussi leur demande de vaccination prioritaire pour les enseignants au plus tard lors de leur prochain rappel des vaccins. 4537 chômeurs étaient inscrits à la fin juillet auprès des offices régionaux de placement valaisans, soit 360 de moins qu'à la fin juin. Le taux de chômage a reculé de 0,2 points à 2,5%. Comme en juin, il s'agit du recul le plus important au niveau suisse après celui des Grisons. Et le secteur de l'hôtellerie-restauration compte pour 60% de la diminution du chômage en Valais. La situation reste cependant tendue avec le tourisme valaisan qui s'attend à un fort recul du nombre de nuitées cet été par rapport à l'été 2020. Et en Suisse, le taux de chômage est resté inchangé en juillet puisqu'il est de 2,8% de la population.
Le GIEC a publié son rapport choc sur le climat aujourd'hui.
La planète va subir une augmentation sans précédent des événements météo extrêmes tels que les canicules ou les pluies diluviennes. Cela même si le monde parvient à limiter le réchauffement à 1,5 degré de plus. La responsabilité de l'humanité dans le réchauffement climatique est sans équivoque, ont martelé aujourd'hui les experts climat de l'ONU. Ces derniers estiment que les activités humaines ont provoqué la quasi-totalité des plus 1,1 degré gagnés depuis le 19e siècle. Le réchauffement de la planète devrait atteindre donc plus 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle autour de 2030, soit 10 ans plus tôt que les dernières estimations. Le texte explique entre autres que la capacité des forêts, des sols et des océans à absorber le CO2 émis par les hommes risque de s'affaiblir avec la poursuite des émissions. Une menace pour les efforts concédés pour limiter le réchauffement de la planète à des niveaux acceptables. Certaines conséquences du réchauffement climatique, notamment la fonte des glaces et la hausse du niveau de la mer, sont désormais irréversibles pour des siècles ou des millénaires, selon les experts de l'ONU. Et plus de 40 civils ont été tués hier dans le nord du Mali à l'occasion d'attaques imputées à des djihadistes. Celles-ci ont eu lieu contre trois localités voisines et proches de la frontière avec le Niger. C'est ce qu'ont indiqué un responsable militaire et des élus locaux. Le Mali, pays sahélien pauvre et enclavé, est pris dans la tourmente sécuritaire et politique depuis 2012. Le sport en football, Murat Yakin est bien le successeur de Vladimir Petkovic sur le banc de l'équipe nationale. L'Association suisse de football a annoncé que l'ancien international helvétique avait signé son contrat ce matin. Âgé de 46 ans, il quitte donc son poste d'entraîneur du FC Schaffhouse en Challenge League avec effet immédiat. L'ex-défenseur s'est engagé jusqu'à la fin des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 avec une option de prolongation. Il dirigera son premier match le 1er septembre prochain à Bâle. La Nati y défiera la Grèce en match amical.
À Tokyo, la crise sanitaire n'a pas eu raison des Jeux Olympiques.
Reportés d'une année, les JO ont finalement pu avoir lieu. Les organisateurs ont gagné leur pari, celui d'organiser un tel événement en plein cœur d'une pandémie mondiale. Pour y arriver, il a fallu prendre des mesures très strictes, notamment pour préserver la population japonaise. Une bulle olympique a ainsi été instaurée alors que la grande majorité des compétitions se sont tenues à huis clos. Reste que cette décision de maintenir les Jeux Olympiques de Tokyo était la bonne. C'est du moins l'avis du Neuchâtelois Denis Oswald. Il est membre de la commission exécutive du Comité international olympique.
Absolument, après coup, c'est toujours plus facile de le dire, mais il a fallu beaucoup de courage pour les maintenir, beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, côté sportif évidemment, CIO, fédération, mais aussi surtout du côté des Japonais, pour pouvoir reporter d'une année, ce qui n'était pas évident, ce qui entraînait aussi beaucoup de travail de leur part, mais... On peut dire que vraiment, ça valait la peine. Quand on voit le succès, on peut le dire, malgré toutes les contraintes qu'il y a autour de ces Jeux, quand on voit la satisfaction des athlètes, le plaisir qu'ils ont au village olympique, même s'ils doivent observer la distanciation, même s'ils ne peuvent pas sortir, malgré tout ça, on a rarement vu, dans le fond, des athlètes aussi heureux, aussi satisfaits lors de Jeux olympiques.
Et au Japon, si ces jeux devaient être ceux de la reconstruction, ils sont vite devenus les plus chers de l'histoire avant de devenir les JO de la pandémie. Mais au lendemain de la cérémonie de clôture, cet événement pourrait avoir été celui de l'espoir. Le commentaire de notre envoyé spécial à Tokyo, Emily Mumenthaler.
Ces Jeux olympiques de Tokyo avaient fait couler beaucoup d'encre, bien avant même la cérémonie d'ouverture. Mais au final, ce sont les athlètes qui ont eu le dernier mot pour faire entrer ces joutes dans les annales, grâce à leurs performances et aux émotions qu'ils nous ont fait vivre. Les mesures sanitaires étaient très strictes et contraignantes, mais c'était la moindre des choses pour parvenir à contenir raisonnablement la pandémie et pour préserver une population japonaise dont le sens de l'accueil n'a pas failli. À défaut de s'enflammer pour ces JO, cette dernière ne s'est pas embrasée contre. Et les absents ont eu tort, ils n'étaient déjà pas si nombreux. Ceux qui voulaient ces Jeux olympiques les ont eus et ils en garderont pour la plupart un souvenir impérissable.
Et pour le CIO, l'heure n'est pas au repos après ces Jeux olympiques de Tokyo. Il est déjà temps de se focaliser sur les prochaines Olympiades, celles d'hiver prévues du 4 au 20 février 2022. Ce sera à Pékin.
En course à pied, les années se suivent et se ressemblent pour Maud Matisse à Sierre-Dinal.
L'athlète d'Olon s'est imposé pour la troisième année consécutive samedi sur le mythique parcours valaisan de 31 km. Grande favorite à sa propre succession, la Chablaisienne a aussi établi un nouveau record de temps sur l'épreuve élite de ses 48e édition. Mais en raison d'un tracé légèrement différent cette année, son chrono de 2h, 46 minutes et 3 secondes ne sera pas homologué. Qu'importe pour la Vaudoise, qui sait qu'elle a les jambes pour aller chercher cette nouvelle marque de référence de manière officielle. Les précisions de Maud Matisse.
Bah là, je vois que il est battable, hein, parce qu'en plus, si je vais vraiment à fond jusqu'à la fin, je pense que je peux encore grappiller une minute, donc voire peut-être plus. Donc ça met en confiance, puis je pense que je viendrai battre ce record quand la situation sera normale.
On vous a senti ému, la ligne d'arrivée passée. Ça veut dire qu'il y avait un petit peu moins de certitude que les autres années.
C'est clair. Comme j'ai dit avant, avec mes soucis de cœur et puis. J'avais quand même une crainte parce qu'il y avait la Kenyenne qui m'a passé devant à Thion Dixon, qui était là. Donc je savais qu'elle était forte. On m'avait dit tu verras, il y a une Britannique qui vaut 2,33 sur marathon. Et puis elle est très vite aussi. Donc il y avait plein de filles que je connaissais pas, bien 3 ou 4. Et puis on se dit bien sûr que je suis humaine, hein, donc j'aurais pu très bien finir 3 ou 4e.
Maintenant les vacances, l'esprit léger.
Là c'est magnifique, je me réjouis de l'après-midi. D'ailleurs j'ai déjà pris le chocolat, hein, la raclette ce soir, et puis maintenant les vacances quoi.
La joie de Maud Matisse. Côté masculin, Kylian Jornet a triomphé pour la 9e fois entre Sierre et Zinal. L'ultra-terrestre espagnol, tel qu'il est surnommé, l'a emporté avec 42 secondes d'avance sur le britannique Robbie Simpson, alors que l'italien Cesare Maestri est venu compléter le podium. La réaction de Kylian Jornet.
C'est toujours magnifique et c'est toujours tellement une belle course. Il y a toujours le plateau qui fait batailler, c'est jamais facile. Dans la montée, c'était la bataille avec Rémi, Petro. Et après, j'ai pu me relâcher un peu, prendre la force pour la partie finale. Et depuis l'hôtel, je savais que le dessin s'en convient bien. Et j'ai pu partir un peu devant. Mais je savais que derrière, il y a des coureurs qui viennent fort. Donc il ne faut jamais aller trop doucement.
Des propos recueillis par Julien Traxel. À noter qu'avec cette victoire à Sierre-Zinal, Maud Matisse fait aussi une belle opération sur le circuit des Golden Trail World Series, puisqu'elle conforte sa première place au classement général.
Retrouvez toute l'actualité en podcast et en vidéo sur radiochablais.ch. La météo avec le Western Vapeur Park au Bouvray, une grande ruée vers l'or et plein d'animations tous les jours. Suissevapeur.ch.
Le soleil devrait continuer de briller cet après-midi selon Météo Suisse, malgré des passages nuageux. Pour les températures, on devrait atteindre 22 en plaine, 20 à 1000 mètres et 13 à 2000. Enfin, pour demain, on continue sur la même tendance qu'aujourd'hui avec quelques passages nuageux. On attend un risque d'averse. Un risque d'averse, par contre, n'est pas exclu dans la nuit de mardi à mercredi. Côté Mercure, il fera entre 13 et 26 en plaine, entre 11 et 23 à 1000 mètres et entre 9 et 18 à 2000. La météo à 6 jours, radiochablais.ch.